Mémodio, une mémoire sonore.
Ça commence au bout du monde. Depuis, ce territoire a changé du tout au tout. J'avais 14 ans, j'en paraissais 17, et en dépit des prévisions, je venais de décrocher mon certificat d'études. Lorsque notre professeur Loucheur, il louchait, annonça les résultats officiels, et que seul mon nom fut jeté par sa voix de chien maigre dans le vide du silence, une profonde stupéfaction pétrifia les copains. On me regarda avec des yeux moqueurs, des yeux méprisants, des yeux haineux. Les copains qui avaient tous échoué en bloc n'en revenaient pas, moi non plus, Loucheur non plus. J'ai été le premier bâtard de mon quartier qui allait quitter l'école avec autre chose que des poux et le vice de la masturbation collective. De mémoire d'homme. Ma réussite paraissait invraisemblable. Jusqu'alors, je m'étais distinguée par aucun signe d'intelligence précoce ni de folie héréditaire. J'étais aussi vicieux que les autres. Aussi mal habillé que les autres, aussi pouilleux que les autres. Comme eux, j'appartenais à une famille sordide du quartier le plus écorché de la ville de Lyon. La zone. Sous toutes les latitudes, on trouve ces repères de repris de justice, de bohémiens, d'assassins en puissance. J'étais qu'un petit salopard des fortifs, une graine de bandit férue de coups durs. Pas plus que les autres, je ne craignais ni le mal, ni le sang. Les spectacles violents qui se déroulaient chaque jour dans notre univers nous rendaient insensibles. On se bat beaucoup chez les pauvres. Lorsque Wiekiewicz, le Polonais pédéraste, se fit étriper par Tardan, en pleine rue, jeune colosse de 18 ans, nous allâmes tous avec plaisir toucher son cadavre. La bande, elle était là au complet. Je vois. Jeune garçon blond, musclé en diable, fort comme un débardeur, intelligent, cruel, il commandait dur la bande, il était mon seul copain. Meunier, maigrichon à la gueule aiguisée, Chapuisat qui portait un coup de volaille affamé sous une tête hydrocéphale, Crojat, le malin, avec son nez de fouine, Debrère, le bossu, Lobresco, le roumain, Julius Ledenhardt, le fils du fripier, et moi. Jborn, en sa qualité de chef, moi, son lieutenant immédiat. Enfin, nous étions sur un pied d'égalité, lui et moi, dans le respect des autres. À cette époque, nous ne tolérions qu'une puissance, celle du muscle. Si par exemple, nous accordions quelques considérations à Debrère, le bossu, c'est qu'il forgeait à longueur de journée des insultes si grossières et si drôles que Jborn lui-même devait en rire. C'est l'unique concession que nous n'ayons jamais faite à l'égard d'un faible. À l'image de la nature, les faibles chez nous devaient crever et être tournés en ridicule le temps de leur courte vie. Je me souviens de Victor Albadi. Victor Albadi, le fils épileptique de la veuve italienne. Feu son père, ivrogne parfait, avait autrefois brisé la jambe de son fils, l'estropiant à tout jamais. Le pauvre innocent avait la cervelle aussi folle que sa jambe et il traînait péniblement l'une et l'autre. Le surnom de Toto lui était tout naturellement venu. Il était l'un des souffres-douleurs du quartier. Les adultes, pas plus que nous, ne se privaient de l'injurier, ni de le frapper dès que l'occasion s'en présentait. On se bat beaucoup chez les pauvres. Mais je me souviens aussi un détail curieux, on surnommait Roméo. Plus tard, je me suis demandé d'où avait bien pu surgir cette réminiscence d'un personnage de Shakespeare que nul d'entre nous ne connaissait même de renommée. Dans notre esprit, Roméo s'identifiait pas un sentiment de séduction ni de beau, Albadi était laid. Personne n'avait jamais prononcé ce nom. Et voilà qu'un jour, il fut sur toutes les lèvres pour désigner le bâtard de la veuve italienne. Faut croire que les chefs-d'œuvre touchent jusqu'aux plus ignorants des ignorants. Bref, l'examen en poche. Je devenais l'abcès de la bande, le salaud, qui durant une année avait mis ses forces à honorer l'école. J'étais perdue, je le savais. Mais vous voyez déjà, écrasé à même le sol sur l'heure de mon copain Jborn. J'avais pas peur. J'étais prêt. Loucheur, qui paraissait émerveillé, nous trouvait tous si compréhensifs. Il pensait tout de bon, évitait la tempête. Il faisait déjà mine de se retirer lorsque Jborn l'interpella. Hé, vieux, là ! Fais voir, là, ton paplard, là ! Non, non, Monsieur Osborne, vous vous dépassez. Fais voir ton papelard, j'ai dit. Monsieur Osborne, j'en référais à monsieur Loeb, le directeur. Fais voir ton papelard. Là. Les gars, il est reçu. Mes copains se tournaient vers moi, ils avaient des regards de froid criminel. Je me baissais, je ramassais rapidement deux pierres, je connaissais l'issue du combat. Ils me laisseraient écraser à même le pavé. De Brer, qui souriait déjà à l'idée de voir mon sang répandu. Chapuisat, qui faisait un pas vers moi. Lorsque je borne, fendit la foule et me tendit la main. En agissant ainsi, il démontrait son autorité de chef. Je lui serrai la main. Je borne éclaté d'orgueil. Tenir en respect des gars pas commodes, ça, c'était le privilège d'un caïd. Je borne et moi, nous nous comprenions parfaitement, nous étions de la même race. Une fois son orgueil assouvi, renoncé pas au combat, nous nous empoignâmes. Vêtements contre peau, corps à corps, règlement de compte entre chefs. En plein jour, en bonne amitié, lui et moi. Je borne me décolla une gifle énorme à main raidie. Je lui envoyai mon poing sous la poitrine, ce qui le fit gémir et... Ce fut tout. Loeb apparut. C'était un curieux bonhomme, Loeb. Petit, maigre, sec. Il portait monocle à l'œil droit. Il lui manquait un bras qu'il avait perdu durant la guerre. Un tic nerveux a baissé le bas de son visage de seconde en seconde. Sa main gauche unique était pourvue d'une bague d'or à pierre triangulaire. Avant de distribuer des gifles, il retournait la pierre à l'intérieur de sa main et le chaton pénétrait douillettement le gras de nos joues. Par façon de parler, on était maigres comme des chats de campagne. J'borne et moi étions les seuls qu'il ne frappa que rarement. Avec nous, il raisonnait. Avec moi surtout, qui préférait. Loeb me tendit la main, et dans sa main, le fameux certificat qui certifiait mes miteuses connaissances. J'hésitais pas longtemps. Sale petit bâtard de crétin de la zone. On ne te reverra plus par ici, n'est-ce pas? Tu n'as pas l'intention de continuer tes études? N'est-ce pas? J'borne me tapa sur l'épaule, me sourit. Loeb me serra la main. Allez! Allez! Allons fêter ça au bistrot. C'est ma tournée. Et nous allâmes tous au bistrot. Et Dorothée vint nous rejoindre. Dorothée. Bâtie en sensuelle. La nature l'avait rangée dans cette catégorie de femmes qui ne reçoivent d'autres plaisirs que ceux de leur sexe. Tous autant que nous étions, nous nous branlions pour elle. Loeb, lui, se la tapait. Elle avait trouvé si extraordinaire mon geste de tout à l'heure qu'elle plaqua sa cuisse contre la mienne. Sous la table et sans manière, Loeb tripotait Dorothée. De voir Loeb et sa putain se ploter ainsi en plein public, ça nous provoquait de drôles d'émotions. Alors... Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Oh, je sais pas. Bien, mais tu n'as pas l'intention de continuer à pourrir chez tes parents? Oh, je sais pas. Bien. Est-ce que, au moins, tu sais où travailler? Je sais pas. Bon! Bien! Je te donnerai donc un mot pour quelqu'un. Oh, merci, monsieur. Attention. Attention, par contre. Pas de bêtises. Je l'ai à l'œil. C'était bon de se distinguer. Je venais de l'apprendre aujourd'hui. Le lendemain matin, ma mère, étonnée d'apprendre mon coup de chance qui la flattait, me traîna chez les Donnart, le fripier, pour me choisir un nouveau pantalon. Le mien avait des yeux aux fesses. Les vêtements chez les Donnart venaient en droite ligne des hôpitaux, des saisies, rien n'était jamais désinfecté. Les Donnart extirpa deux tuyaux tachés, usés. Ma mère s'en empara, les posa sur mes cuisses, le pantalon semblait m'aller, au jugé, elle l'acheta. Elle l'acheta à crédit. Le commerce chez nous ne se pratiquait pas autrement. J'enfilais le pantalon lorsque j'entendis Julius Ledonnart en train de rigoler à l'idée qu'on allait voir me trimballer en pantalon. Mon casse-tête, toi. Ouais, et je peux savoir qui c'est qui va se foutre de ma gueule. Pas moi déjà, là. Ah, t'es pas ma fille. Aïe. Et aussi c'est que je vais décharger mon poing sur la tête pour le ramener à la raison. Foutez une trouille noire, là, ce con aussi. Bref. Piloté du pantalon, je sortais rejoindre Jborn. Cadeau de ta vieille. Ouais. Bat, hein. Moi aussi, hein. Dès que j'ai du pognon, je vais en acheter un pareil chez le juif. Bah, je sais pas, écoute, on a tendance, tu veux, on a qu'à le porter chacun un jour sur deux, enfin. D'accord. J'ai cru qu'il avait envie de pleurer. Mon offre lui paraissait miraculeuse. À ma place, lui, il n'aurait jamais envisagé une telle solution. Il me dit qu'il ne l'oublierait pas, que j'étais son pote. Notre véritable amitié naquit à cet instant. Je bande se demander ce qu'on allait bien faire durant ses vacances. Il était entendu que je chercherais du travail, il avait très envie de venir avec moi, mais en attendant, il avait l'idée de quelques razzias dans les magasins de la ville pour ramasser un peu d'argent. Jborn et moi organisions minutieusement ces longues virées. Dans notre situation, se faire épingler pour vol à l'étalage équivalait à la mort. La maison. La noire maison de correction, d'où sortit un jour de vent et de pluie les deux baumes. Le petit gosse d'autrefois qui avait tenté d'étrangler sa sœur Léna. Les deux baumes. Le petit gosse d'autrefois avec une tentative de meurtre à son actif. Il nous était apparu du bout de la rue, grandi par l'âpre souffrance de son bagne. Il avait la misère plein la gueule. Et plein la gueule de haine, de rage, de puissance meurtrière. Les hommes qu'il croisait lui demandaient « Alors, fiston ?» Et lui, il répondait « La paix. » Simplement la paix. Et sous ses pas, le pavé chantait la litanie des crevards. Dans la bouche de Ledobaum surgit soudain le mot « société ». La société. Sociale. La gangrène sociale. J'avais jamais entendu ce mot. Dans ce mot, il avait concentré sa longue patience de reclus. Sa faim, sa pneumonie mal soignée, son initiation au vice corporel, tout y était, tout. Le désir de vengeance des siècles, le souffle lourd des levées populaires. La haine des croyances et des pouvoirs, le mépris des lois. Les sang mêlés des serfs, des ouvriers de notre temps, les peines interminables des pauvres, des ratés, des agonisants à perpétuité. Société. Bercés par cette chanson ahurissante, ces mots frappaient les crânes et nous écoutions ces années de torture, sa cellule, 1023. L'entassement des détenus. Fous. Déchaînés. Masturbé jusqu'à l'épuisement. Les rondes matinales dans la cour. La soupe claire qui provoque les diarrhées meurtrières. Les épreuves de force où le vaincu est ensuite livré au bon plaisir de chacun. La discipline pénitentiaire inculquée à coups de matraque, et puis les jours, et puis les nuits gravées dans les murs à la pointe de Longaoui, nous écoutions. L'horrible chanson folle m'est restée sonore à l'oreille. Et aujourd'hui encore, quand je vais seule par les rues, je siffle cet air déchirant et je vous jure que les passants écoutent. Mon Dieu, ce qu'ils écoutent. C'est de la musique qu'on a oublié de composer. Ça s'invente pas une mélopée pareille, ça vous remonte de la chair à la gorge. Mon père, lui, s'était installé dans le ghetto après avoir subi plusieurs fois l'emprisonnement. Convaincu de vol avec effraction et de vol à barre. Ma mère, elle, exploitait un don curieux pour l'avortement et elle l'avait sagement suivi dans sa retraite. Néanmoins, ma famille se rangeait parmi les gens adorables de notre ghetto. Mon père avait son illusion qui consistait en des crises périodiques durant lesquelles il parlait de plus boire une goutte d'alcool. De trouver un travail sérieux et rémunérateur dans une bonne entreprise de la ville. De déménager avec sa famille dans un immeuble bon marché du boulevard. De rompre avec les connaissances du ghetto. De trouver d'autres amis d'un niveau plus élevé. Et d'économiser sous par sous afin d'acheter une maison à la campagne. Où nous passerions nos vacances, nos dimanches, nos jours fériés. Voilà. Voilà. Là, c'est pas compliqué. Ah. Et... Oh, alors oh important. Important, c'est d'avoir la volonté de se tirer de ce lotissement de malheur. Alors, un grenier pour commencer, qu'est-ce que je reste? Ben rien. Rien, parce que moi, je sais tout faire. Alors, je trouve du travail. Ouais, je sais tout faire. Moi, je sois brocante, bois, mécanique. Je sais tout faire. Alors, un travailleur comme moi, on croise pas tous les jours. Alors... Ouais, et puis, Sophie, un peu merdée, un peu aussi, là. Reporter un peu, là. Bon. Ah. Oh. Les gosses. Il va falloir faire une situation aux gosses. Bon, Lucien, il est con. Ah si, Lucien, il est con. Ah oui, bah, on voit en apprentissage. Et alors, l'autre, mon mineur. Ah, mon mineur, là. Bah, il y arrivera. C'est lui, c'est tout mon portrait. Alors, il arrivera, c'est tout mon portrait. Sauf que lui, il veut rien foutre de ses 10 doigts. Alors lui, je l'envoie à l'école avec mon Siri Davis, le mien. Mais il arrivera. Il arrivera, c'est tout mon portrait. Alors. Bon, alors. Oh. Bon, et alors. Ça coûte. Qu'est-ce que ça coûte, tout ça? Ah, bah rien. Hein, et puis boire, là, se bourrer la gueule, là, comme on fait à longueur de journée, parce que qu'est-ce qu'ils font nos mômes pendant ce temps-là? Ah, rien. Ils ont plus mauvais exemple sous les yeux, alors. Mais moi, m'en fous. Parce que moi, quand je serai en ville, pépère, eh ben, j'aurai plus rien à me reprocher, moi. Voilà. Voilà. Et si on l'avait écouté, on aurait quitté 100 fois la zone. Et 100 fois on y serait retourné tant il était incapable de travailler régulièrement. Il en était à ce stade où l'on ne démêle plus le réel de l'invraisemblable. À mesure qu'il parlait, son royaume se dégageait des brumes de son cerveau d'alcoolique. On l'écoutait, ça en valait la peine. Ça prenait une profonde résonance d'authenticité, la même résonance pour tous, celle du bonheur entrevu. Et puis, une fois sa crise calmée, aussi rapidement que surgit, la chute était brutale, cruelle, insoutenable. Il se ruait alors au bistrot, il buvait sans mesure la journée entière. Et nous, pendant ce temps-là, si nous ne nous jouions pas à nous flanquer des raclées, nous étions désemparés, mais heureusement, il y avait le concours de salive. Généralement, c'était le samedi matin. Le samedi, pour nous, c'était la joie. Au lever, ma mère se présentait grognon. Je recevais ma plaque en apparaissant devant elle, inévitable. Bah, elle avait besoin de se détendre, j'étais là pour ça. Ensuite, elle me taillait une tranche de pain que j'attrapais au vol et je sortais rejoindre Jborn. Quoi, le concours de salive, quoi ? Ouais, c'est un jeu amusant auquel les jeunes jouent plus aujourd'hui. Bon. Bref, je rejoignais Jborn qui mordait à belles dents dans sa tranche de pain. Non, mais rien de tel, hein. que de mâcher longuement la mie pour qu'il vous monte à la bouche assez de salive. Rejoignez Sborn, qui mordait à belles dents dans sa tranche de pain. Lui, il était le détenteur du record en hauteur. On apercevait du bout de la rue, on voyait la petite mousse blanche jaillir de ses lèvres, monter en l'air rapidement et redescendre en chandelle. Moi, j'étais champion de la distance en longueur et j'étais le seul à savoir cracher en arrière, par-dessus ma tête, sans faire d'autres mouvements qu'un léger décalement du cou au partir du jet. Ah, j'arrive pas à ton truc là, j'ai encore essayé là. J'arrive pas. Mais non, mais c'est pas grave parce que c'est juste un truc en fait. Donc... Ouais, mais je veux dire, je devrais y arriver. Toi par exemple, si tu voulais, tu cracherais aussi haut que moi. Ah non, 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 parce que toi t'es caïd là-dessus donc. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'on doit être aussi forts l'un que l'autre, ok? On est les moins cons du ghetto, non? Parce que tu verras hein, quand on s'y mettra. Hein. Mais tous là qu'on se les mettra dans notre poche. Tous, ça chauffera dur, là, tu verras. Bon, d'accord. D'abord, il faut se tirer de ce lotissement de malheur. Bah ici, rien à faire. Alors que ailleurs, Jeborn et moi étions persuadés qu'une fois franchies les limites de notre terrain vague où s'entassait le remblai, les richesses s'étalaient à profusion. Bref, la bande était là au complet. Loubresco, Debrer, Chapuisa, Meunier, il y avait les filles aussi, Amy, Catherine, Séprina, Thérèse. À 5 mètres de là, il y avait Julius Ledenhart, qui vérifiait les résultats, les enregistrait, traçant de la pointe de son soulier une marque décisive dans la terre. Après nous, les concurrents s'alignaient, ils crachaient, jamais à notre dimension. Et l'après-midi s'écoulait ainsi, partagé entre l'inaction, le désœuvrement. Il s'étalait à pas de velours, l'ennui nous guettait, l'oisiveté nous devenait intolérable. Il nous fallait des cris. Totor, Roméo, Albadi, Jean-Jean, Blaise, qui nous observaient de leurs yeux éreintés de vivre. Ils allaient subir le supplice. Nous leur commandions d'abord de se battre entre eux au milieu des ordures. Jean-Jean était toujours le premier terrassé. Ensuite, il fallait 10 bonnes minutes à Totor pour réduire Blaise. L'animal chialait, mais tenait bon. Debrer se mêlait de lui-même à cette répugnante comédie. Il bondissait sur l'Italien et il lui donnait de tels coups que l'autre finissait par demander pardon. À longueur de vie, les faibles éprouvent le besoin de se faire pardonner. Et nos semaines s'écoulaient ainsi, partagées entre la violence, l'inaction, le désœuvrement. Nous n'aspirions à rien d'autre, surtout à rien d'utile. Et tout n'était pas noir pour autant. Il y avait ces instants de paix fugitive, volés à la vie malgré elle. De force. À mes parents. Ce couple épique, mes parents. Mon père, ce pauvre type raté, était inféodé à sa femme. Il avait le goût de l'aventure et du danger. Aussi vaniteux que bête, il s'engageait à donner bénévolement sa vie ou sa liberté en l'échange d'un mot bien placé et flatteur pour ce qu'il croyait être son honneur. Et puis quand les ennuis s'accumulaient, il en avait pour des semaines à se repentir de sa crédulité. Ma mère avait alors le droit de l'injurier et elle s'en privait pas. S'entendre humilié ainsi devait coïncider chez lui à une secrète jouissance. Et quand elle l'abreuvait pas de hurlements incroyables, c'est lui qui la frappait. Il se réservait de donner à sa femme les plus retentissantes raclées de tout le ghetto. Tout ce qui leur tombait sous la main était bon. Ses bagarres conjugales lui laissaient pendant des semaines la peau tuméfiée. Si bien que ces duels, se répétant en toute occasion, j'ai jamais connu ma mère autrement que marquée de bleu sur tout le corps. Les dimanches matins, où elle avait pris sa raclée, elle me prenait à partie. Ton frère Lucien, lui,
C'est un bon petit ange, Lucien. Il me comprend. Mais toi... Toi, tu t'en fous de ce que je raconte, hein, espèce de charogne. Bah, non, je m'en fous pas. Menteur. Charogne. Mais non, mais je te dis que je m'en fous pas. T'es qu'une petite larme. Tu t'en fous de ce que je raconte. Toujours. Tu t'en fous. Bon, bah t'as raison, alors je m'en fous. Hein. Espèce de petite larve, quoi. T'es qu'un petit bandit, en fait. T'es qu'une charogne, espèce de petit vicieux, là, hein, espèce de vicieux, là, une charogne. Et son poing sec s'abattait sur ma tête, toujours sur la tête. Mes migraines actuelles ont là leur source. Ça pleuvait de rue, des pieds, des poings. J'avais mal, je me tenais le ventre. Ma tête s'en allait d'un coup, rattrapée au bon moment par une gifle nouvelle. Mon père, qui ne songeait qu'à l'alcool qu'il boirait durant la journée, assistait à la scène impavide. Lucien se marrait, ça le divertissait, l'idiot, et moi, je chialais pas. Je chialais pas. Mais moi, aujourd'hui, à tous les deux, je vous crie salaud. Toi, ma mère, je sais pas où t'es passée. J'ai pas pu retrouver ta trace. Mais sache que si tu vis quelque part, tu peux m'offrir une joie, celle de ta mort. Te voir mourir me paierait un peu de ma douloureuse enfance. Si tu savais ce que c'est qu'une mère, garce. Rien de commun avec toi, femelle éprise qui livra ses entrailles au plaisir et m'enfanta par erreur. Une femme n'est pas une mère parce qu'elle met au monde un fœtus. Les rats aussi savent se reproduire. Je traîne ma haine de toi dans les dédales de ma curieuse existence. Il fallait pas me laisser venir au monde. Il fallait me tuer. Il fallait recourir à l'hygiène. Il fallait pas me laisser subir cette petite mort de mon enfance, garce. Si je te retrouve, si tu vis quelque part, si je te retrouve, À toi, mon père, par contre. Ridicule embryon, je sais où te trouver. Tu es cette frêle silhouette qui frôle les murs de la nuit certains soirs et qui tend la main aux passants. Tes yeux sont rougis par l'alcool. Un matin, je m'accrocherai à ton nom dans le journal, on t'aura retrouvé mort dans la rue. Dans notre ghetto, nous vivions peu. On mangeait pas tous les jours, par contre, on ne se privait pas de boire. À l'alcool, c'est l'hostie du pauvre. Du lever au coucher, ça coulait de rue. Feld et Feltin, les deux bistrots se faisaient face et ils étaient organisés. Ils avaient installé chacun derrière leur comptoir un grand tableau noir sur lequel s'inscrivaient les dettes de la clientèle. Une fois la somme atteinte, parfois dépassée, ils servaient plus. Les deux bistrots se soutenaient et restaient inflexibles. Feltin avait un don, celui du sourire cristallisé. Il n'approuvait ni ne désapprouvait les types qui braillaient devant son comptoir. Appuyé des deux coudes sur celui-ci, il quittait pas des yeux le type qui aurait profité d'un millième de seconde d'inattention pour lui rafler une bouteille. Alors, le type s'égosillait pendant une heure, parfois plus. Il séchait sa salive en insultes, et puis, comme il était venu pour ça, il commandait à boire. Ah ! Mon petit Feltin ! Ah ! Bah, tu m'en sers un petit dernier, la vie bien tassée ! Non. Ah non ! Feltin, c'est juste le petit dernier. Non. Oh ! Feltin, mais tu peux pas refuser. Si. Alors, Feltin, vieux pote, c'est pas très pote. Allez, juste la petite dernière, la bien tassée. Non. Alors, mais ça va, j'ai du pognon, hein. Alors, d'abord, est-ce que tu peux dire que moi je t'ai déjà fait perdre quelque chose? Alors, est-ce que tu peux dire ça? Non. Ah ! Alors, non.
Non, mais... Allez. Feltin, s'il te plaît. Mais non, mais c'est juste le petit dernier. Feltin, c'est juste le petit dernier. Après, c'est...
Non.
Bah, tu vas me servir, là, oui ou merde ! Je t'ai dit non ! Attends !
Dis donc voir d'abord, toi. Mais tu serais pas aussi dégueulasse que Fel, là, par hasard, là. Fel, fais ça, et te pisse trop. Mais tu sais quoi, moi, m'en fous. Parce que moi, quand j'aurai des rognons, des pognons, moi, je mettrai plus les pieds dans votre urne, là. Espèce de boursouflure, rapace. Crevard. Mais le magique de l'histoire, c'est que ni Feld, ni Feltin n'eurent jamais à se plaindre de dettes impayées. Les familles traquaient l'argent. Les joies de l'alcool surpassant les joies de la boostify. Même le père Chapuisa mourut subitement sans rien devoir.
Ça tenait du miracle. Le père Chapuisa, qui était sans conteste avec mon père le buveur le plus réputé du ghetto. Ils absorbaient à eux deux quantité d'alcool, et ça à longueur de semaine. Bah, c'est bien simple.
Mon père et le tuberculeux se retrouvaient le matin au seau du lit devant un godet bien tassé.
Et ils se gorgeaient d'alcool la journée entière. Le no man's land de la raison. La jungle. Et une fois par mois, l'un d'entre nous mettait sur pied le plan d'une attaque. Un cambriolage. La zone au grand complet entrait dans la confidence. Le crime, ça rapproche.
Faire un cassement. Un casse. Ça, c'était notre ambition. Ça prenait des allures de fête, de célébration. Feld de bonne humeur dans ces cas-là. Régalait d'une tournée générale au petit matin. Les gosses étaient transis d'une admiration fervente envers les spécialistes du casse. Nous écoutions leurs récits, bouche ouverte. En matière de cambriolage, le père Meunier avait pas son pareil. Il travaillait seul. Il prévenait personne. On savait rien de ses projets. On le reconnaissait comme un maître. Avant de tenter leur premier pas, les jeunes guapes venaient lui demander des conseils parce qu'il était intelligent. Aujourd'hui encore, moi je sais crocheter une serrure. Je sais marcher sur un parquet sans faire de bruit. Fracasser une vitre sans attirer l'attention. Nos premières armes se fourbissaient dans les grands magasins de la ville au vol à l'étalage. Je bornais moi en tête du groupe, suivi de Lou Brisco, Julius, mais c'était Debrère, le bossu, qui menait l'affaire de fond en comble, en expert, en prestidigitateur de grande classe. Chaque fois, il procédait de la même manière. Une fois le rayon repéré à un point du magasin, bosse proéminente, air de chien battu, il abordait le chef de rayon 20 mètres plus loin. Puis d'une voix larmoyante, pitoyable, exercée à la sensiblerie, il servait sa rengaine, judicieusement éprouvée. Il se tassait, il se tire-bouchonnait. Il se désossait, il se compliquait l'anatomie, il accentuait sa difformité. Son œil crachait une larme déchirante. Oh, c'était du grand art.
Regardez-moi, monsieur. Regardez-moi, monsieur. Avez-vous déjà vu un bossu aussi laid que moi, monsieur? Je n'ai que 12 ans, monsieur. Et toute ma vie, oui, toute ma vie, je traînerai cette misère. Ah, oh non, messieurs, dames, non. Non, non, je ne demande pas la charité. Non. Non, moi, tout ce que je demande, c'est qu'on m'enlève mon mal. Mais ça, personne n'y peut rien, non. Ah, non, oh non, non, non. Je suis qu'un petit gars de la zone, moi, monsieur, dame. Vous pouvez pas vous douter de notre misère. Non, vous pouvez pas.
Ah, immanquablement, les gens s'attroupaient. Les vendeuses quittaient leur rayon, elles venaient constater, et nous, pendant ce temps-là, on empochait. Les montres, les bijoux de pacotille, la lingerie féminine. La peur, c'est agréable au ventre. La gorge qui sèche, le cœur qui tape à tout casser. Cette volonté de réussite, c'est presque de l'orgueil, presque de la vanité. La peur, c'est pas un énorme sentiment, c'est une exquise sensation. viennent après les ficelles du métier. La profession qui prend racine. Et s'il arrive qu'on se fasse choper à son coup d'essai, la prison favorise l'élaboration du coup prochain. Sans parler de l'esprit de révolte qui couve dans les prisons, les rencontres avec les vieux maîtres qui ont fait carrière et qui prodiguent des conseils. Et là, seulement, le cercle infernal se referme sur vous, lentement. Et il se brisera plus. Peu de mes copains y ont échappé. J'ai eu avec moi la chance. J'invoque rien d'autre. J'ai joué avec la chance. Elle se fixe là ou ailleurs. Au hasard. Avec nous, la police était à son aise. Elle perdait pas son temps. En un clin d'œil, elle cernait notre domaine. À la plus petite accusation portée contre nous, nous, on répondait par la négative. On y est tout en bloc. Alors, par principe, on injuriait les flics. Par principe, ils jonglaient avec leur matraque. Par principe, quelques têtes saignaient. Bref, rien de grave. À 12 ou 14 ans, nous ne rêvions déjà que de tueries. Les noms de Dillinger, d'Al Capone nous étaient familiers. Le seul et unique nom de ville étrangère que j'ai entendu dans mon ghetto, c'était Chicago. Chicago. Si je me souviens, j'oublie rien. Jamais. Quand la nuit tombait, les couples se formaient. Et ils s'en allaient deux par deux le long de la voie de chemin de fer abandonnée. La plupart d'entre nous avaient été conçus là, le long de cette voie. C'était l'amour primitif. L'amour des bêtes enveloppées de saleté, de nuit, de pauvreté. Nous sommes quatre. Quatre camarades. Jborn, Julius, Lubresco et moi. Nous avons des attitudes et des yeux de loups affamés. Nous sommes affamés, moins de pain que de vie. Quatre innocents de la création, cruels, impitoyables, intraitables. Nous avons 12 ou 14 ans et nous sommes forts. La nuit, il n'y a rien d'autre à faire que l'amour ou l'assassin. Tout est permis. Les rêves les plus insensés. La nuit fait roi les pauvres. Nous sommes quatre. Quatre camarades qui poussons Amy vers la voie de chemin de fer abandonnée. Amy dans sa petite robe rouge et bleue. Lubresco couvre de sa main la bouche d'Amy, elle ne doit pas crier. Elle tente de se retourner, mais Julius la maintient et l'embrasse sur la joue. Elle nous regarde. Elle a peur. Elle ne tente pas de s'esquiver vraiment. Elle a peur. Elle a peur parce que c'est le rôle des femmes que d'avoir peur lorsque s'approche d'elle pour la première fois le désir de l'homme qui s'apparente tellement à une brutalité meurtrière. Les petites cuisses sans chair sont blanches. Julius les écarte d'une pression des poignets. Lubresco cherche Jborn du regard, mais celui-ci détourne la tête. Amy respire à peine. Je m'appuie de tout mon poids, de toutes mes forces sur sa poitrine. Elle garde les yeux grands ouverts, écarquillés. Elle se plaint à Julius, « Tu me fais mal !» Mais Julius ne desserre pas son étreinte. Jborn ferme les yeux, on dirait qu'il ne veut plus assister au spectacle. Et Lubresco s'avance, lentement. La culotte en boule sur ses chevilles, il avance. Amy geint. Amy crie. Les jeunes bêtes qui ont mal sans comprendre crient de cette façon. Amy pleure. Lubresco se relève. Et nous restons tous les quatre autour d'elle, hypnotisés par le sang qui marque la peau d'Amy. Soudain, Julius se relève et s'en va comme fou, sans se retourner. Lubresco s'assied, sanglote, et Jborn aide Amy à se relever. J'ai mal. J'ai mal. Alors c'est ça. Puis il la renvoie d'une poussée dans le dos le long de la voie de chemin de fer abandonnée. et nous giflons à toute volée l'oubresco qui ne se défend pas. Jamais je n'avais ressenti aussi clairement la solitude décevante, misérable de notre ghetto. Jamais j'avais eu autant envie de disparaître. À l'heure où les hommes s'endorment, une nouvelle catégorie d'hommes se met à nu. Et lui, il les a façonnés à sa manière brutale. Amy ne racontera rien, jamais, de cette soirée. Personne n'en fera une affaire. L'affaire, elle, se déclencha dans la soirée du dimanche.
Ce soir-là, gorgé d'alcool, gonflé d'alcool, au quetant, en vomissant, le village s'épuisait en clameurs, ça beuglait. Les femmes entonnaient des refrains bien graveleux, des couplets bien obscènes. Elles relevaient haut leurs jupes sur leurs cuisses sales et elles dansaient. Les gosses étaient dans la rue comme toujours. Par la porte de Sheffield, j'apercevais ma mère, blouse béante, se laissant tripoter les seins par le vieux Leidenhardt. Devant Sheffield, de Brère dansait. Et chaque dimanche, nous assistions à cette furieuse bacchanale, nous autres petits spectateurs prématurément endurcis à l'inconcevable. Ordinairement, avant la nuit, Totor, Roméo, Albadi s'esquivaient, l'ombre n'étant pas favorable aux faibles dans notre quartier. Mais ce soir-là, il était resté avec nous. Il traînait sa jambe folle après l'heure permise, et depuis sa cabane, la veuve Albadi, sa mère, l'appelait « Allez, Victorio! Aventi, Victorio! Allez, aventi! Aventi! Ils vont te faire pleurer, Victorio !» Et elle tente de saisir son fils par le bras, mais il se dégage. Elle trébuche, elle retourne à la charge, mais Totor bondit de côté et lui échappe encore, alors il se course. Et l'oubresco s'approche, et il lui murmure « Hé, dis-lui que c'est une putain. » Putana ! Victoria, tais-toi ! Allez, tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Mais Totor insulte, Totor rigole, alors la veuve explose en haine brûlante. Elle vocifère en italien, elle nous insulte, elle nous menace. Et Totor et Debrère qui se mettent à l'imiter, les gosses poussent de grands rires. Et l'oubresco ramasse deux pierres et arme Totor. Et pour la première fois de sa vie, Totor Roméo Albadi vire au tyran. Sa bouche se crispe. Il avance lentement vers sa mère. Et lorsqu'il se trouve à 5 pas d'elle, les deux pierres partent dans un sifflement aigu. Et la veuve Albadi chancelle, raide, inanimée. Et Totor Albadi se jette à son tour sur le corps de sa mère en lui demandant pardon.
Oh, oh, c'est dégoûtant là! Ah, c'est dégoûtant. Je t'ai aimé, mon copain Jborn, pour cette phrase. C'est dégoûtant. Ouais. Cette bataille de mollusques contre le père Chapuisat et le père Leidenhardt, lourd d'alcool, c'est dégoûtant. Totor Roméo Albadi se jetant sur le corps de sa mère et lui demandant pardon d'une voix étrange. C'est dégoûtant. Plus que toutes les autres, cette soirée est baignée de notre pestilence. On est des salauds. On est tous des salauds, c'est forcé. Et Blaise qui chialait. Et Jborn qui l'empoigna parce qu'il se trouvait là, le premier venu. Le crétin y suivit docilement jusqu'en bas de la rue et lorsqu'il aperçut le terrain vague, il prit peur. Jborn le tira à lui. Personne nous avait vu disparaître. Nous ne savions pas encore ce que nous allions faire de ce pleurnichard. Blaise chalait plus fort, alors nous traversâmes d'une traite le terrain vague jusqu'à un immense tas de sable. Et à cet instant-là, 3 destins s'entrechoquèrent. Celui de Jborn, le mien, celui de Blaise. Et tout fut fait en silence. Travail de taupe. Nos mains se glaçaient au contact du sable fin. Lorsque le trou présenta les dimensions voulues, Blaise fut enterré debout jusqu'au cou. Jborn et moi n'osions pas nous regarder, il me tapa sur l'épaule et nous partîmes. Suivi par les sanglots tendres de Blaise comme une petite bête plaintive. À 100 mètres de là, le gosse étouffait dans le sable. Nous avons écouté les cris de Blaise, terrifiant d'abord, résigné ensuite,
décroissant peu à peu. Puis son silence à lui. Puis à rien. Rien. Le lendemain matin, les ouvriers du gaz trouvèrent Blaise, le visage violacé, la langue pendue. Il n'était pas mort. Le ghetto assista aux manœuvres des pompiers à qui il fallut 3 longues heures pour le ranimer. Jborn avait les yeux cloués sur ce demi-cadavre et moi, j'avais envie de dégueuler mon ventre. J'avais envie de disparaître, de me vomir, de me tuer. Je ne sais à qui nous dûmes de ne pas être tout droit dirigés vers la maison, la noire maison de correction. Une enquête fut ouverte qui ne se poursuivit pas, la police n'exécuta qu'un travail sommaire. Notre confrérie d'intouchables ne méritait même pas l'intérêt commun. Peut-être aussi la vie de Blaise. Cette vie de crétin ne fut-elle pas jugée par la mesure commune? Aucune plainte ne fut jamais déposée. Rien. Mais la fréquentation d'un établissement scolaire allait nous être imposée à la suite de l'affaire. C'est l'affaire qui précipita les choses. Nous étions de dangereux malfaiteurs. Notre cas fit fureur. La ville criait « chasser la racaille ». Pour toute sanction, on nous imposa l'assiduité scolaire. Un matin, 2 flics vinrent nous chercher pour nous escorter jusqu'à l'école comme des criminels. Nous avons traversé les rues. Précédé d'un agent, un autre fermant la marche. Il ne nous manquait plus que les menottes. Regardez-nous. Regardez-nous bien. Nous ne saisissons pas encore pleinement l'infamie de ce défilé matinal, mais il nous imprégnera d'une haine tenace jusqu'au reste de nos jours. Alors regardez-nous. Regardez-nous bien. À l'école, les élèves normaux nous accueillirent par des rires. Nous étions catalogués des délinquants, des prisonniers. Delbos, le directeur, chargea les flics de nous aligner sur 2 rangs. Ça commençait. Seulement. Long, maigre, sec, hissé sur des jambes interminables, les épaules voûtées, Delbos haïssait les enfants. En général, nous, il nous avait en abomination. Lorsqu'il battait un gosse, ça brillait fulgurant dans ses yeux. Avant de le corriger, il prenait de l'élan, le bras rejeté en arrière, et là, et plus le gosse chialait, et plus Delbos se déchargeait. Il avait même une spécialité. Il prenait un gosse entre les pouces et les index à hauteur de favori, et il le soulevait de quelques centimètres. Il était l'auteur de cette trouvaille. Il avait découvert que la région des tempes était sensible. Et ça avait l'air de le passionner. Faut dire ce qui est. Il s'est bien occupé de nous. Delbos glissait lentement vers le bureau de Loucheur sans nous quitter des yeux. Dites-moi, monsieur Gloss, êtes-vous content de ces messieurs? Votre silence est éloquent, monsieur Gloss. Nous avons affaire à des apaches et vous êtes faible avec eux, monsieur Gloss. Je ne puis tolérer votre faiblesse. Prenez exemple sur moi. Je suis dur. L'école serait-elle vivable si je ne la régissais pas durement? Non, l'école ne serait pas vivable. À partir de maintenant, j'exige de vous que vous soyez intransigeant avec eux, monsieur Gloss. Sans quoi? La porte. La porte, monsieur Gloss. C'était un brave bonhomme, ce Gloss, ce Loucheur. Un brave cono. Delbos le méprisait et l'eût saqué avec joie. Delbos nous haïssait. Il haïssait notre saleté, notre pauvreté, notre orgueil, car nous n'en manquions pas. Ça le minait. Ça le désarçonnait dans sa conception des pauvres. Il avait tout particulièrement une dent contre moi. Je ne perdais pas la redoutable habitude de relever la tête. Sous ses insultes et sous ses coups, je le regardais. Bien en face, muet, en homme. Je savais déjà faire. Et pour comble, je chialais jamais. Selon lui, nous aurions dû nous humilier, nous traîner à ses pieds, geindre, gémir. Avec Jborn, avec moi, il avait tout essayé, tout. Ça le mettait dans des colères incoercibles, ça lui ravageait le visage tant il était en rogne. Petite larve, petit bandit, mais tous là, tous, vous finirez dans les prisons, tous, dans les prisons, tous.
À quelques exceptions près, il n'avait pas tort. Delbost nous provoquait, mais nous sentions le danger. Danger et nous étions de vieilles, vieilles connaissances.
Allez, dégagez là! Sortez en récréation, je ne veux plus vous voir! Et c'était l'époque des billes.
Les mouflés des villes, les jeux d'adresse, c'est pas pour eux. Ils savent pas viser. Alors que nous, l'adresse, on l'a dans le sang. Et en moins de deux, on leur avait raflé une centaine de billes. Voleurs, tricheurs, je vous ai vu tricher. Et c'est comme ça que vous me remerciez de vous avoir envoyé en récréation. Ah, mais on m'y reprendra à essayer de vous faire confiance, croûte. Et de but en blanc, il en vient aux gifles. Et ça pleut dru. Et quant aux petits mouflés des villes, bien sapés, bien propre, joli, rosé, mais ils se déchargent un bon coup sur nos os. Mais nous ne bougeons pas. Nous ne ripostons pas. Nous restons de marbre. Tant et si bien que la furie s'apaise rapidement. Delbos, vexé à mort de son coup manqué, nous fait rendre les billes. Et demain, là, tous là, je vous veux, tondu, haras. Si l'un d'entre vous se ramène avec sa tignasse, je lui casse les reins. Et maintenant, foutez-moi le corps, bande de croûteux, foutez-moi le corps avec vos coups. Et de rage, il décoche un coup de pied dans le ventre de Tota Romeo Albadi, qui s'abat raide, bleu, inanimé. Et cette fois, Delbo s'était allé un peu fort. Et il venait de signer son arrêt de mort. Il y eut de longs démêlés avec les autorités. Un procès, dont Delbos sortit cassé de ses fonctions. Louchard le remplaça quelque temps, puis il céda sa place à un nouveau directeur. Petit, maigre, manchot, qui portait monocle à l'œil droit. Là. L'Ob était exactement le pédagogue qu'il nous fallait. Il nous jaugea à notre réelle valeur en un clin d'œil et nous accorda sa confiance. Il demanda d'abord à ce que la surveillance policière fût écartée de l'école. C'était un fameux bon point pour lui. La contrainte policière évanouie, elle nous devint supportable à l'école. Les premiers temps, l'Ob peupla nos journées de récréation. Notre préférence allant aux jeux de force, aux bagarres, l'Ob prit part à nos mêlées. Il autorisait tout, à la condition qu'on le respectât et qu'on lui obéît. Jborn et moi, qui avions de l'ascendant sur les autres, il nous traitait en copains. Il nous apprivoisa en un tournement. Il nous interrogeait sur notre condition sans jamais se moquer de nous. Il nous prenait au sérieux. On eût dit qu'il savait tout de nos lourdes peines d'enfant. L'Ob ne prit pas plus d'une semaine pour nous séduire et nous captiver. Pourtant, sa seule présence nous en imposait. Loucheur cachait pas sa satisfaction d'être enfin protégé par un supérieur dont il n'avait pas peur. Il devait à peine croire à sa chance. Un après-midi, on nous réquisitionna pour le grand nettoyage de la baraque. On nous distribua des balais, des chiffons contre la poussière. On trouvait l'Ob sympathique, mais nous, on ne savait pas faire le ménage. Bien. Non, vous... Vous faites exprès, là, ou... Je vous ai posé une question. Vous le faites exprès, vous... Vous savez pas balayer? Si vous ne savez pas balayer, dites-le, mais ne vous obstinez pas. Sans quoi, ça n'ira pas avec moi. Ouais, et ben non, on ne sait pas balayer, et après... Et après... Rien. Si vous ne savez pas balayer, il suffisait de le dire. On ne balaye donc jamais chez vous. Chez nous, c'est la merde. Oui, je sais très bien d'où vous venez. Et j'ai pas honte. Mais moi non plus, je n'ai pas honte et je viens encore plus bas que ça. Ah ! Eh oui, ça vous étonne.
Parce que vous, vous croyez des exceptions. Mais vous n'êtes ni plus ni moins que des gosses ordinaires qui avaient poussé là où le hasard les a placés. Faut pas vous en targuer. Cherchez pas à vous distinguer comme ça, continuellement. De quoi vous plaignez-vous? Vous êtes comme tous les gosses de votre âge. Et moi, j'ai l'habitude des gosses de votre âge. Bien, alors, qui est le chef, là, parmi vous? Bien. Ton nom?
Jborn, monsieur. Et à lui, c'est mon lieutenant, c'est Calaferte.
Bien, Jborn. Tu vas m'aider à mener cette petite bande d'énergumènes, hein? Entre chefs, on se comprend. D'accord, monsieur?
Mais moi, je suis toujours le chef de la bande, hein.
Et toi, tu m'as dit que tu t'appelais Calaferte, monsieur. Tu es le seul qui travaille ici. C'est bien. Tu aimes les cours? Ah non, non. Et pourquoi non? Bah, on se fait chier. Oui, mais si tu travailles, tu pourras obtenir ton certificat d'études. Je m'en fous. Bien, alors dans ces cas-là, pourquoi est-ce que tu travailles?
Mais je travaille pas, en fait, monsieur, c'est juste que quand Loucheur y parle, je comprends tout, c'est pour ça.
Loucheur, oui. C'est monsieur Gloss, je suppose. Ouais, quand il parle, je comprends tout, c'est pour ça.
Tiens.
Bon. Dis-moi, Jborn, ça me dit bien. C'est mon pote. On se quitte pas. Et quand on foutra le camp ensemble, on foutra le camp ici, là-bas, jamais ensemble.
Pardon? Non, je veux dire qu'un jour, on foutra le camp d'ici, ensemble.
Bien. C'est bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les petits de votre calibre, et on va s'entendre à merveille. Je suis très content de vous avoir. Allez, va dire aux autres assez de nettoyage pour aujourd'hui, vous jouerez dans la cour. Et ils s'occupaient presque uniquement de faire de nous des hommes au lieu de voyous. Mais c'était bien un seul travail utile. L'homme me préférait à tous, et parfois le soir nous faisions quelques pas ensemble. Il me parlait de la vie, de la sienne, la vie en général. Et il me prodiguait des conseils, l'air de rien, en grillant une sèche. C'est lui qui me prêta mon premier livre extrascolaire, Réfutation de la Bible, écrite par un prêtre défroqué. Une lecture fondamentale, monsieur Calaferte. Fondamentale. Homme exceptionnel, cher vieux lobe. Quels efforts n'as-tu pas fait pour nous persuader que la communauté nous attendait et qu'elle ne ferait pas de discrimination contre nous? Tu auras été le seul à deviner tous nos secrets. Les indomptables que nous étions avant ton arrivée avaient viré de bord. Nous étions, lorsque nous quittâmes l'école, des garçons à peu près passables qui pouvaient affronter l'avenir. C'était la zone, c'était l'enfer, c'était la fin. Quand je parle de la fin, je parle de la vraie, la tenace, la coriace, l'insurmontable, celle qui vous mine la tête de vertige, celle qui vous brise les jambes, celle des matins glacés, où à 50 gueux, en se battant dans les rigoles, nous attrapions les primeurs avariés pour les bouffer. J'aurais renié mon nom pour un morceau de pain, j'aurais vendu ma peau pour un bol de soupe. La faim, faut en parler, ça a son importance dans une psychologie. Quand on a interminablement faim, que la faim exaspérante s'accroche à vous, on est prêt à tout accepter de tout le monde. Et qu'on vienne pas me dire que la faim incite à la révolte, c'est pas vrai, ça vous ramollit, ça vous colle le sourire obséquieux au coin des lèvres. Toute votre existence se centre autour d'un repas complet. Ça tourne à l'obsession. On en oublie dignité, honneur, orgueil. Les années se sont écoulées, les unes derrière les autres. Autant de jours tarés, autant de sursauts enchanteurs vite calmés. Les années depuis sont venues bien en ordre, bien en nombre. m'asséner quelques mauvais coups. Je me retourne vers la route parcourue, vers les décombres. Les années sont passées, les unes derrière les autres, m'ouvrant les portes monumentales du lupanar terrifiant qu'est la vie. Je borne est parti, je reste seule. Quelques années plus tôt, Jborn était retourné s'enliser dans ce délabrement avant de se foutre en l'air un matin de Noël, dans le fleuve. Un matin glacé, tout métallique et blanc. Un matin d'enfant heureux devant les arbres illuminés. C'était sa façon à lui de foutre le camp. Te souviens-tu, Jborn, de cette époque dangereuse où nos godasses buvaient toute l'eau des rues ? Te souviens-tu que notre désir était de lire, et de lire, d'ouvrir un de leurs livres, savoir, apprendre, comprendre, deviner, découvrir, déchiffrer la clé du monde. Ça nous tenaillait, la faim au boyau, nous volions des livres dans les librairies, nous attendions d'eux de fantastiques révélations et surtout le sens de la vie. Où êtes-vous aujourd'hui, Debrère, Julius Lubresco? Dans quelle prison? Dans quel chagrin inconnu et profond? Dans quel détour de la peine? J'ai suivi vos traces année après année, et puis finalement, mon destin, qui n'est pas moins nébuleux que les vôtres, m'a emporté ailleurs, ne laissant à ma mémoire que vos noms et vos figures barbouillées et cruelles d'il y a 15 ou 20 ans. Aux figures de démons pauvres. J'ai pas oublié. Toujours où que je sois, vous pourrez m'aborder, je vous reconnaîtrai. Je tendrai ma main et ma poitrine pour vous accueillir. Si j'ai de la nourriture, je vous nourrirai. Si j'ai de l'argent, je vous en donnerai. Et mon amitié, et mon cœur, et ma peau même, si vous en avez besoin. J'ai pas oublié d'où je viens. J'ai pas renié ma race. Je vous accueillerai en pleurant, les bras grands ouverts. Toujours où que je serai, vous pourrez m'aborder, je vous reconnaîtrai. J'aime bien que la misère des hommes. C'est un bout de notre vérité, la misère. Ça nous fait tenir les yeux écarquillés. Ça vous dérange.
Mémodio, une mémoire sonore.